Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.
Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes à l'occasion de l'édition 2021 du MAPIC. Et bonjour à vous qui êtes avec nous depuis ce matin, je vous remercie. On va continuer à faire le tour de ces acteurs du retail et de l'immobilier commercial. Alors, on va laisser un peu les enseignes de côté maintenant pour s'intéresser à l'immobilier pur et dur avec mon prochain invité. Bonjour Pierre Rochard.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé pour le commerce ou les commerces chez Arthur Lloyd. Alors Arthur Lloyd, je pense que tout le monde connaît le nom. On va quand même remettre un petit peu une définition derrière. Qu'est-ce qu'on y fait exactement ?
Alors Arthur Lloyd, c'est avant tout 74 agences qui sont définies par une grosse emprise régionale. On est surtout connu pour ça. On est sur tout le territoire national. D'ailleurs, on a tendance à dire de manière assez triviale que là où on n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de business. On travaille tous les types d'actifs, que ce soit de la logistique au bureau, au commerce, en passant par l'activité, en sachant que le gros de l'activité, surtout au niveau des régions, c'est le bureau et les commerces. Et voilà, tout simplement.
Donc transactions, gestion.
Transactions, gestion, investissement. On a une grosse équipe d'asset management à Paris qui est plutôt logistique. On a aussi des fonctions transverses dont je fais partie, donc plutôt investissement, donc fonction transverse au niveau national. Logistique aussi, fonction transverse, asset management. Et après, chaque entité du groupe, donc dans les 74 agences, il y a des gens qui font de l'investissement, de la location. C'est vraiment, ça dépend vraiment en fait des volumes, tout simplement.
Vous m'en voudrez pas si je dis que vous êtes le monsieur commerce d'Arthur Lloyd ?
Moi non, peut-être qu'il y aura des gens dans le réseau qui vous diront le contraire. Non, on travaille en toute intelligence de toute façon avec les différents directeurs commerce des différentes agences. Effectivement, on a tendance plutôt à dire ça parce qu'on s'occupe de tout ce qui est portefeuille commerce et de tous les gros volumes. On a tendance à dire, mais même si c'est pas gravé dans le marbre, que tout ce qui est supérieur à 5 millions d'euros est plutôt traité par les équipes transverses. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on commence à s'adresser à des investisseurs et à des profils d'investisseurs qui sont plutôt soit institutionnels, soit des gros family funds et qui ne s'attachent absolument pas à l'emprise territoriale de nos agences. Donc voilà.
Ça représente quelle part de votre activité, le commerce ?
Alors, au niveau de l'investissement, ça représente 50%. 50%, c'est du bureau et l'activité, 50% du commerce. Et après, la logistique, c'est encore, comme vous l'avez pu le comprendre, un autre service à part qui est dirigé par Didier Tarrier.
Et qui doit être en plein boom en ce moment.
Ah oui, c'est assez énervant de voir à quel point ils excellent. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'ils sont extrêmement reconnus par rapport à leurs compétences. Ils ont une très forte emprise. Et si on a la même réussite, on sera très heureux.
Alors justement, on en est où du commerce chez Arthur Lloyd ?
Alors le commerce, moi je suis arrivé à peu près il y a 3 ans. Et quand je suis arrivé, c'était une matière qui était traitée, mais de manière assez annexe. Et donc ma feuille de route a été de monter un vrai service investissement commerce, si on peut l'exprimer ainsi, et surtout au niveau de la région. Donc on a été amené à externaliser un certain nombre de lignes de la plupart des institutionnels. On travaille énormément avec des sociétés type BNP, AUW, La Française et autres big players du marché. Et notre feuille de route, ça a été vraiment de monter en puissance dessus et d'être reconnu sur la partie investissement, parce qu'on est extrêmement reconnu sur la partie loc. C'est vrai que la location, nos agences les traitent avec brio. Souvent, on est amené d'ailleurs, quand on pitch pour la petite anecdote, à découvrir, entre guillemets, qu'on se retrouve avec des actifs qui ont été loués par nos agences. Donc ça nous donne toujours du baume au cœur et aussi un peu de ça nous donne le sourire tout simplement. Et je rigole parce qu'en fait je vois le schtroumpf passer, donc c'est toujours un peu étonnant le MAPIC par moment. Et effectivement, on a une ligne commerce qui est montée complètement en puissance, puisque là où l'année 2019 a été assez compliquée pour les enseignes, bah, nous on a plutôt bien excellé. On a fait pas loin de 70 000 m² en 2019 de commercialisation, qui représentait environ 70 millions d'euros. Et l'année 2021, on va la finir avec plus de 100 000 m² commercialisé. Ça représente à peu près un volume d'investissement de 100 millions d'euros, qui est de un tiers pied d'immeuble, retail park, galerie commerciale. Donc on a quand même un équilibre qui est plutôt bon à ce niveau-là. Et on est déjà sur des perspectives de plus de 120 000 m² sur le premier trimestre 2022. Donc ce qui m'amène à dire aussi que le commerce, qui a été entre guillemets le parent pauvre de l'investissement sur les 3 dernières années, on repart sur les chapeaux de roue et ça fait vraiment plaisir à tout le monde.
Même dans ce contexte qu'on connaît sur les 1 an et demi, 2 dernières années.
En fait, assez paradoxalement, moi j'ai toujours gardé la foi entre guillemets sur le commerce, parce qu'effectivement l'année 2019 était en plein boom, mais on voyait bien que la plupart des investisseurs ne souhaitaient plus trop aller sur le commerce. Il y avait une grosse partie retail bashing, avec un coup de grâce, entre guillemets, qui a été le Covid, où là, tout le monde a pris peur.
Donc, pardonnez-moi, déjà, avant le Covid, il y avait une petite, dédain pour le commerce ?
Alors, oui, après, il faudrait rentrer un peu plus profond dans l'analyse des actifs, mais de manière générale, oui. On voyait que là où sur les années 2016, 2017, 2018, qui étaient vraiment des très belles années pour le commerce, on avait tendance à dire qu'il y avait entre 400 et 500 investisseurs qui étaient capables de le regarder. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur une centaine d'investisseurs, et on voit bien que ce mouvement de rétrécissement de la plupart des investisseurs est apparu 2018-2019. Après, je vais dire quelque chose qui est très trivial, qui va peut-être faire sourire, mais c'est vrai que le monde de l'investissement est souvent un monde un peu moutonnier, puisque dès qu'on a un rapport qui sort où ils disent absolument il ne faut pas aller sur le commerce, c'est très compliqué, tout le monde a tendance à dire je m'en désengage. Alors qu'on voit qu'en réalité il y a une très forte stabilité de cette classe d'actifs, que les taux sont très bons, puisqu'on a quand même des taux qui sont la plupart du temps supérieurs à 5 voire à 6 en fonction de la classe des actifs, une très bonne rentabilité, et en fait qu'à partir du moment où vous avez une bonne enseigne, un bon emplacement, les bons fondamentaux tout simplement du commerce, bah vous avez une très forte stabilité, contrairement à ce qu'on peut voir en bureau en seconde couronne parisienne ou sur d'autres classes d'actifs type la logistique du dernier kilomètre qui a du mal à se mettre en place à l'heure actuelle.
Parce que bon, il y a un petit peu de parti pris dans ce que je veux dire, mais en tout cas après Covid, personne n'a délaissé le commerce physique alors qu'on a délaissé un peu les bureaux.
Tout à fait, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Et je vais même aller dans le sens de votre parti pris en le partageant. Je pense qu'en fait, il y a eu tout un phénomène sur le commerce qui a été de, un, avoir du retail bashing, donc des gens qui se sont désengagés, des gens qui ont dit nous on veut de la valeur sûre, la valeur sûre c'est du bureau parce qu'en fait on a une lecture qui est entre guillemets plus simple, parce que ça c'est un point qui est important et sur lequel je ferai une parenthèse, c'est que la lecture du commerce c'est vraiment une lecture qui doit être faite par des professionnels qui connaissent le terrain. Et la difficulté qu'ont eu certains investisseurs c'est d'acheter du commerce à tour de bras et de se retrouver avec des mauvais sites. Et c'est vrai que faut dire les choses. Il y a des fois des commerces, c'est pas un emplacement commerce. Et il faut toujours avoir cette lecture qui est extrêmement fine. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on me disait souvent que c'était de la haute couture, le commerce. Et je partage tout à fait ce point-là parce que les fondamentaux, ils sont relativement simples. Il y en a trois, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc à partir du moment où vous respectez ces fondamentaux-là, vous êtes sur des actifs qui sont extrêmement stables parce que quand vous mettez en perspective tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, en fait, les enseignes, elles n'ont pas arrêté de se développer. Il y a eu des gens qui sont sortis, il y a des gens qui sont rentrés, mais au final, le dynamisme des enseignes, il est toujours là. Les emplacements, quand ils sont bons, il y a toujours des offres. Il y a toujours une commercialisation qui s'effectue. Et quand vous parlez avec les différents asset managers, ils ne se sont pas retrouvés face à des actifs impossibles à relouer, bien au contraire. Ce qu'on a vu, par contre, le deuxième phénomène avec ce phénomène de retail bashing, avec des gens qui se désengagent, c'est forcément une décompression des taux, parce qu'on a moins d'investisseurs qui se battent. Et aussi le troisième phénomène qui, à mes yeux, a été extrêmement sain et qui a été fait notamment par le Covid, mais qui n'est qu'un accélérateur particule en réalité, ça a été de revoir les valeurs locatives entre guillemets à la baisse, là où on a eu une tendance haussière pendant des années avec des loyers qui étaient collés au plafond, avec complètement décorrélés d'autres efforts en réalité. Là, on est revenu aux fondamentaux une fois de plus, qui sont des loyers corrélés au taux d'effort, donc à l'activité, que ce soit de l'enseigne franchisée ou succursaliste, et donc avec un business model qui est beaucoup plus sain. Et donc tous ces éléments-là font que, en fait, on se retrouve avec des actifs qui sont extrêmement sains et par conséquent faciles à vendre, entre guillemets. Même s'il y a un gros travail pédagogique à faire, et ça c'est le rôle du broker et du mien notamment, et des équipes qui travaillent là-dessus au niveau d'Arthur Lloyd, c'est d'aller expliquer aux investisseurs qu'ils ont délaissé le commerce, qu'il faut y revenir. Pourquoi ? Parce qu'on a cette stabilité en termes d'investissement avec des taux attractifs.
Est-ce qu'il y a un petit peu plus de peur sur certaines zones géographiques ? Je m'explique. Nous recevions tout à l'heure Emmanuel Leroc, qui est donc le délégué général de Procos, qui représente les enseignes, et qui nous parlait d'un phénomène qui existe, on ne peut pas le nier, c'est la vacance locative en centre-ville notamment. Est-ce que du coup les investisseurs ont un petit peu plus de mal à s'engager sur certaines adresses en cœur de ville ou pas ?
Alors, je pourrais vous faire une réponse générale. Je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Tout dépend en fait de la ville. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut regarder le territoire. Et en fait, là, il faut sortir de l'aspect investissement. Il faut plutôt regarder dans le territoire par le prisme, notamment INSEE. Très clairement, vendre une boutique dans la diagonale du vide, ça relève de l'exploit. Vendre une boutique en centre-ville dans une zone de chalandise extrêmement captive ou alors dans une zone dynamique type la façade atlantique, en fait, il y a toujours des clients. Donc c'est là où il faut avoir une lecture assez fine du patrimoine qui est mis en vente et être capable aussi d'avoir un taux qui est corrélé au marché. Parce que on peut dire ce qu'on veut sur le territoire et compagnie, à partir du moment où votre taux correspond aux investisseurs locaux, vous pourrez la vendre. Mais ça, c'est encore un autre phénomène sur lequel on pourrait passer des heures, c'est l'expertise. Quand vous avez des SCPI qui ont énormément de patrimoine commerce et qui ont des expertises de commerce de pieds d'immeuble en centre-ville de zone moyenne à 5,5-6, bah, en fait, c'est plus le cas. Là, le marché, à l'heure actuelle, en réalité, il est à plus de 7,5%, plus de 8%, sauf sur des emplacements numéro 1 et encore. Et après, voilà, ça va dépendre aussi des investisseurs locaux, parce que tout le sous-jacent que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on a aussi un changement profond de la structure même des investisseurs. On a effectivement un retour en force de la plupart des big players, que peut-être BNP, La Française, enfin toutes ces sociétés qu'on connaît par cœur, qui ont un gros patrimoine de commerce et qui s'y réintéressent, pardonnez-moi. Et à côté de ça, on a aussi une structure plus régionaliste avec des family funds, des gros privés, de manière triviale comme on les appelle, des gros industriels qui veulent tout simplement faire du patrimoine et qui sont capables de regarder sur leur territoire, sur leur ville, qu'ils connaissent par cœur, des actifs, mais ils n'iront pas à des taux SCPI, donc des taux inférieurs à 6%.
D'où l'intérêt et l'importance de cette identité régionale que vous avez qui vous permet finalement de connaître ce marché finement.
C'est notre grande force. C'est vraiment ce qui nous différencie des autres. On connaît parfaitement tous les investisseurs parisiens, tous ceux qui sont sur les différents salons avec des stands. Et après, nous, notre plus-value, c'est clairement d'avoir des investisseurs régionaux, des investisseurs locaux, des fortunes personnelles. Voilà, tout simplement, moi, je le dis souvent, et on étonne beaucoup nos mandants, c'est que de temps en temps, on ramène un expert comptable, on ramène un notaire, on ramène un industriel, on ramène un président de club de foot, ça nous est déjà arrivé, et ce sont des gens qui ont des fortunes, qui sont complètement en dehors des radars et qui sont capables d'acheter vite et bien, sans poser trop de difficultés, donc c'est aussi ça l'avantage. Par exemple, ils posent peu de questions en data room, donc ça plaît aux institutionnels. Et à contrario, on a aussi d'autres types de profils, hein, des concessionnaires automobiles, enfin voilà, on a vraiment tout. Et c'est sûr que quand on nous confie un mandat, on est capable d'aller au plus profond du tissu économique français et d'aller vraiment chercher les bonnes personnes qui sont capables d'acheter ces actifs-là.
Une dernière question pour vous, Pierre. Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, moi non plus, mais on va quand même essayer de se projeter. On parlait de logistique tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que commerce et logistique vont être de plus en plus liés dans l'avenir? On sait qu'il y a cet enjeu du dernier kilomètre, de la réactivité concernant cette logistique, de la durabilité également des transports. Est-ce que vous pensez que les deux vont aller de pair bientôt?
En fait, votre question est très intéressante et effectivement, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut remarquer une chose déjà, c'est que les fondamentaux sont les mêmes. C'est-à-dire être à proximité d'un rond-point, à l'extérieur de la ville, près d'un axe structurant, sur des zones dynamiques. Souvent, ils parlent de la diagonale Lille-Marseille avec Lyon et Paris pour la logistique. On voit bien que les principales zones commerciales sont là. Est-ce qu'elles sont corrélées? Elles le seront le jour où les bases logistiques seront cédées à Sable, qui, je sais, est un grand débat chez les gens qui font du commerce, parce qu'ils considèrent que c'est de la concurrence déloyale. Je ne rentrerai pas dans ce débat, hein, très clairement, parce que je n'ai pas d'avis, et puis je pense que c'est un peu un débat qui est stérile. Par contre, je pense sincèrement que le renouveau de certaines zones commerciales passe par la logistique, et notamment la logistique du dernier kilomètre. Et je pense que le patrimoine de beaucoup de grosses foncières qui ont des boîtes à chaussures, des stand-alone vides, vont être amenés à avoir cette réflexion. Combien de temps ça va prendre? Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut changer le logiciel de pensée, il faut changer l'approche. Et toujours pareil, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, vous avez ces expertises qui font que, de temps en temps, c'est compliqué d'avoir les mains libres sur la gestion de votre parc. Mais effectivement, je pense que les deux sont intimement liés, et que l'un va de pair avec l'autre, et que la zone commerciale peut être le renouveau de la logistique, notamment du dernier kilomètre, et à contrario, à voir comment ils pourront développer ce business model-là, et peut-être qu'ils pourront aussi trouver des moyens de s'entendre pour développer tout simplement ça.
Merci Pierre Rochard pour toutes ces explications, pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur associé commerce pour Arthur Lloyd. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.
À vous. Merci, au revoir.
Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.